présenté par Aurélie Kiefer. Bonjour Aurélie.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Matteo Salvini ne s'avoue pas vaincu. Tandis que Giuseppe Conte travaille à la formation d'un nouveau gouvernement, le chef de la Ligue se positionne en premier opposant à la nouvelle alliance Mouvement 5 étoiles Parti démocrate. Nous joindrons Isabelle Labéry en Italie. En Colombie, d'anciens rebelles des FARC reprennent la lutte armée. Ils accusent l'État d'avoir trahi les accords de paix, analyse d'Omar Waman. Il y aura bien un procès de l'affaire des sondages de l'Élysée. Nicolas Sarkozy est protégé par l'immunité présidentielle, mais 6 personnes, dont l'ancien secrétaire général de l'Élysée, Claude Guéant, sont renvoyées devant le tribunal correctionnel. Il avait été récompensé par 4 Molières, il endossait souvent des seconds rôles au cinéma. Le comédien Michel Aumont est mort la nuit dernière à 82 ans. Jacques Weber lui rend hommage sur France Culture. D'une coalition à l'autre, Giuseppe Conte n'a pas d'état d'âme. Le président du Conseil démissionnaire a accepté la nouvelle charge que lui a confiée le président italien, celle de former un gouvernement réunissant cette fois Mouvement 5 étoiles et Parti démocrate du centre-gauche. Avec cette nouvelle alliance, il annonce vouloir bâtir un nouvel humanisme en Italie et relancer le pays pour qu'il retrouve un rôle de premier plan en Europe. Exit donc la Ligue d'extrême droite et son chef, l'ancien ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, à l'origine de la crise politique. Le leader d'extrême droite a concédé hier soir avoir marqué un but contre son camp. Il y a 3 semaines, il pensait provoquer des élections anticipées et misait sur un triomphe électoral. Il a perdu la bataille, mais il ne s'avoue pas encore battu, Isabelle Labéry.
Effectivement, il a du mal à accepter d'être hors-jeu, Matteo Salvini. Alors cet après-midi, dans l'une de ses vidéos en live qu'il aime tourner pour les réseaux sociaux, il se montre combatif, tout sourire devant un grand ciel bleu.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno, amici, amici.
Vous ne vous débarrasserez pas de moi comme ça, dit-il. Vous croyez que j'ai peur d'être dans l'opposition pendant quelques mois? Je ne laisserai jamais tomber.
Mai.
Jamais.
Mai.
Jamais. Le leader populiste d'extrême droite parie sur un effondrement à court terme du nouveau gouvernement et veut croire à de nouvelles élections. Toujours ministre de l'Intérieur, il parle de vol de la démocratie pour un gouvernement contre nature qui n'a pas de majorité dans le pays et dénonce une équipe affidée à Bruxelles. Il est vrai que l'exécutif européen ne cache pas son soulagement à voir l'eurosceptique Salvini rejoindre les rangs de l'opposition. Dès ce matin, Jean-Claude Juncker a adressé ses vœux sincères à Giuseppe Conte. L'Italie joue un rôle central dans la famille européenne, a dit le président de la Commission. Nous comptons sur vous. Les deux hommes doivent se parler dans la journée. Matteo Salvini lui promet de se faire entendre. Il veut organiser des stands dans toute l'Italie les 21 et 22 septembre pour réclamer le respect des règles et annonce un grand rassemblement à Rome le 19 octobre. Il ne prendra même pas la peine de conduire demain la délégation de son parti qui doit être reçue par le président du Conseil pour les consultations politiques.
Isabelle Labéry, envoyée spéciale de France Culture en Italie. Après l'annonce de la suspension du Parlement britannique pour plus d'un mois jusqu'au 14 octobre, les députés europhiles fourbissent leurs armes pour empêcher une sortie de l'Union européenne sans accord. La décision du Premier ministre Boris Johnson a indigné une bonne partie du pays et entraîné la démission de la très populaire chef des conservateurs écossais, Ruth Davidson, favorable au maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Et maintenant, les opposants à un Brexit dur explorent toutes les options possibles. Ils ont notamment lancé une bataille judiciaire pour dénoncer cette manœuvre politicienne de Boris Johnson. Alors, quels sont les chances d'aboutir de ce recours juridique? Qu'en diront les juges? Écoutez l'analyse d'Aurélien Antoine. Il est professeur de droit public à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne. C'est également le directeur de l'Observatoire du Brexit.
De façon assez classique, ils peuvent considérer que c'est l'exercice de la prérogative royale, que ça concerne le fonctionnement des institutions et que le juge n'a pas à se prononcer sur les motivations supposées de l'utilisation de cette prorogation du Parlement. Ce serait donc une lecture, à mon avis, tout à fait conforme et qui serait tout à fait classique. Les juridictions pourraient être très audacieuses, les juges pourraient être très audacieux en allant au-delà, en se disant « le Premier ministre a procédé à une espèce de détournement de procédure, si vous voulez, en utilisant un mécanisme constitutionnel dont l'objet ne saurait être de museler le Parlement et de l'empêcher de se prononcer sur une problématique qui engage les droits et libertés fondamentaux des citoyens britanniques. Mais encore faut-il accepter que le Parlement a bien été muselé. Ce qui est certain, c'est que justement, le Parlement s'est bien exprimé pendant des mois et il a déjà rendu sa position là-dessus. Et ensuite, il y a une fenêtre de tir au mois de septembre et une fenêtre de tir à partir du 14 octobre. Certes très réduite, mais elle existe. le Parlement a encore la possibilité de renverser le gouvernement, d'adopter des textes et donc de contrer les effets de la prorogation. Donc il faudrait vraiment que les juges aillent quand même très loin pour considérer que ce n'est pas suffisant et que par conséquent, il y a bien eu un déni des droits du Parlement.
Aurélien Antoine répondait à Marie-Pierre Véraud. Le 19 août dernier, le gouvernement turc démettait de leurs fonctions trois maires procures d'élus dans d'importantes villes du sud-est de la Turquie, et ce, moins de cinq mois après leur élection. La pratique n'est pas nouvelle. Lors de la mandature précédente, des dizaines de maires avaient déjà été écartés par le pouvoir, mais cette fois, l'opposition présente un front relativement uni. Les maires déchus l'ont souligné lors d'une conférence de presse à Istanbul, où l'on retrouve Anand Lower.
Depuis un demi-siècle, Ahmet Türk est une figure du mouvement politique kurde en Turquie. La semaine dernière, le ministère de l'Intérieur l'a démis de ses fonctions de maire de Mardin, dans le sud-est du pays, pour des allégations de lien avec le terrorisme. Deux autres maires de son parti, le HDP, ont subi le même sort à Van et Diyarbakır. Et ce n'est sans doute qu'un début, redoute Ahmet Türk.
Nous pensons que le gouvernement ne va pas se contenter de limoger trois maires. D'autres pourraient suivre bientôt. Nous sommes face à un pouvoir qui se crée des ennemis pour se maintenir en place. Donc, nous ne pouvons pas savoir jusqu'où il peut aller.
Après le coup d'État manqué de juillet 2016, alors qu'il effectuait un premier mandat à la tête de Mardin, Ahmet Türk avait déjà été remplacé par un fonctionnaire nommé par le gouvernement, comme 93 autres maires du HDP. À l'époque, la formation pro-kurde avait dénoncé le silence du principal parti d'opposition, le CHP. Cette fois-ci, la situation est très différente. Les élus et les dirigeants du CHP ont sévèrement dénoncé les attaques contre le HDP. C'est une avancée, mais aussi une nécessité, estime Ahmet Türk.
Nous traversons une période sensible, très importante, pendant laquelle l'opposition doit se rassembler pour faire avancer la cause de la démocratie. Si nous ne sommes pas capables de développer des réflexes communs, nous ne pourrons pas faire grand-chose pour empêcher ce qui est en train de se passer.
Ekrem İmamoğlu, le nouveau maire d'Istanbul, élu du principal parti d'opposition, doit se rendre à Diyarbakır dans les prochains jours. Il y rencontrera son collègue du HDP démis la semaine dernière pour lui témoigner son soutien.
Anand Lower, à Istanbul. En Colombie, d'anciens chefs de la guérilla des FARC reprennent les armes. Entrés dans la clandestinité depuis plusieurs mois, ils accusent l'État colombien d'avoir trahi les accords de paix de la Havane, Omar Wahman.
Entouré d'une dizaine de combattants armés, dont deux femmes, l'ex numéro 2 des FARC, Ivan Marquez, annonce la reprise de la lutte armée dans une vidéo diffusée sur YouTube et reprise en boucle dans les médias colombiens. Car c'est un coup très dur porté à l'accord de paix signé en 2016 qui a permis le désarmement de près de 7000 guérilleros et mis fin à plus de 50 ans de guerre fratricide. L'objectif de cette nouvelle guérilla, combattre l'oligarchie et la corruption, déclare Ivan Marquez aux côtés de Jesús Santrich, autre ex-dirigeant des FARC, vêtu d'un treillis vert, il laisse entendre qu'il renonce aux enlèvements contre rançon, pratique particulièrement impopulaire en Colombie, avant d'accuser le gouvernement de ne pas avoir respecté les termes de l'accord de paix, comme la réforme agraire censée remédier à l'inégale répartition des terres dans le pays. Difficile de savoir exactement la taille de cette nouvelle guérilla, mais selon l'armée colombienne, ce groupe dissident compterait environ 2300 combattants.
Bogota se dit préoccupé mais pas surpris par le retour aux armes d'anciens rebelles des FARC. On a appris cet après-midi le décès de Michel Aumont à 82 ans, un visage familier mais souvent au second plan au cinéma. Le comédien a fait en revanche une belle et longue carrière sur les planches. Il avait notamment incarné Harpagon dans L'Avare de Molière. Il avait d'ailleurs été récompensé par 4 Molières, Anne Gepo.
Oui, c'est au théâtre que Michel Aumont, comme beaucoup d'acteurs de sa génération, a débuté sa carrière. Il entre en 1956 à la Comédie-Française en sortant du conservatoire. Il y jouera des dizaines de pièces jusqu'en 1993. Les grands classiques, Tchekhov, Beckett. Il en était depuis sociétaire honoraire, mais le grand public, en fait, a découvert Michel Aumont à la télévision, puis au cinéma. Il fut un des grands seconds rôles du cinéma français à partir des années 70. Michel Aumont, c'était une gueule de cinéma, un physique qu'on n'oublie pas. On l'a vu dans des dizaines de films. La gifle de Claude Pinoteau, Le jouet de Francis Weber, Mort d'un pourri de Georges Lautner ou encore Un dimanche à la campagne de Bertrand Tavernier. Dans les années 2000, il joue un gangster dans L'emmerdeur de Francis Weber. On l'avait vu plus récemment également dans les années 2000 dans Palais Royal de Valérie Lemercier. Michel Aumont s'est donc éteint aujourd'hui au terme de plus de 60 ans d'une carrière très bien remplie.
Gilles Jacob, salut, un très grand comédien, théâtre et cinéma, classique et moderne. Cannes. L'ancien président du Festival de Cannes souligne le maintien, l'intonation, le phrasé, la justesse, l'ironie discrète jamais bien loin et cette sorte d'épaisseur humaine qui sert les grands rôles. Un de ses titres lui va bien, conclut Gilles Jacob, l'œil du maître. Autre hommage recueilli par Mathieu Laurent, celui du comédien Jacques Weber pour qui Michel Aumont était une référence.
Derrière les noms extrêmement illustres des grands Marielle, Rochefort, Serrault, il y a d'autres noms qui sont également très connus, mais pas si connus que ça du grand public et qui sont des immenses artistes, des très grands comédiens et des très grands serviteurs de leur art. Et je veux dire, pour ma part, je n'ai pas joué avec Michel Aumont, mais je l'ai rencontré extrêmement souvent quand j'étais jeune acteur avec toute la bande du conservatoire, c'est-à-dire Balmer, Villeret, Chenet, Corsan, Nathalie Bahut, Pervet et compagnie. Et on était tous dans un lieu qui s'appelait le Sherwood. Et il y avait là des acteurs du français qui venaient. Et pour nous, c'était nos maîtres. On était absolument à plat ventre devant d'abord leur immense talent, mais aussi leur folie. Il était toujours le grand compagnon, je me souviens, d'un autre immense acteur, qui était Jean-Paul Roussillon. Après, naturellement, je l'ai vu au théâtre. Et pour moi, je regardais scrupuleusement son travail, son art, cette précision magnifique qu'il y avait, et dans cette chose très métallique qui était dans sa voix, il y avait toujours un cœur, enfin quelque chose d'extrêmement humain. Je me souviens de l'avoir vu dans Harpagon, que j'ai joué après, j'ai souvent pensé à lui. Je me souviens de l'avoir vu dans Richard III, dans énormément de choses, particulièrement à la Comédie française, et chaque fois c'était ce que provoque toujours un grand acteur, c'est-à-dire un événement. C'est la fin de Michel Aumont, mais le souvenir restera intact et très fort. Et en tout cas, pour moi, c'est fait partie des gens auxquels je pense quand je travaille.
Le comédien Jacques Weber, plein d'admiration pour Michel Aumont, disparu la nuit dernière. Plusieurs anciens collaborateurs de Nicolas Sarkozy ont été renvoyés en procès dans l'affaire des sondages de l'Élysée. Au total, 6 personnes sont concernées par l'ordonnance de renvoi en correctionnel. Parmi elles, l'ancien ministre Claude Guéant et le conseiller Patrick Buisson. Florence Thiam, ce renvoi était attendu.
Oui, sans surprise, le juge d'instruction Serge Tourneur a suivi les réquisitions du parquet national financier qui demandait le renvoi en correctionnel de plusieurs proches de l'ancien président. L'enquête aura duré 6 ans, déclenchée par une plainte de l'association Anticor après la publication en 2009 d'un rapport de la Cour des comptes qui pointe plusieurs irrégularités dans les commandes de sondages de l'Élysée. Un militant écologiste de Grenoble, Raymond Avrier, engage un véritable combat judiciaire pour avoir accès aux sondages en question. On apprend alors que plusieurs millions d'euros d'argent public ont été dépensés pour des enquêtes d'ordre privé, la grossesse de Rachida Dati ou l'éventualité d'un mariage avec Carla Bruni. D'autres plus politiques, les intentions de vote régional ou les adversaires de Nicolas Sarkozy à la prochaine présidentielle. Et c'est non seulement le contenu de ces sondages, mais surtout la manière dont ils ont été passés qui a intéressé la justice autour de 2 délits retenus, favoritisme et détournement de fonds publics reprochés à Claude Guéant et Emmanuelle Mignon, l'ancienne directrice de cabinet de Nicolas Sarkozy, détournement de fonds publics et recel de favoritisme pour Patrick Buisson, l'ancien conseiller de l'ombre du président et ses 2 sociétés, Publifact et Publiopinion. Car la plupart des sondages ont été passés sans appel d'offres. Les mises en examen, eux, ont toujours plaidé l'existence d'une tradition élyséenne qui les dispensait d'appliquer les règles des marchés publics. Patrick Buisson va d'ailleurs saisir la chambre de l'instruction pour contester son renvoi en correctionnel. Nicolas Sarkozy, quant à lui, ne peut être mis en cause. Protégé par son immunité présidentielle, l'affaire s'étant déroulée durant le quinquennat.
Florence Thiam. De la prison ferme a été prononcée à l'encontre de 3 dirigeants de Génération Identitaire. Au printemps 2018, l'organisation d'extrême droite avait organisé une spectaculaire opération anti-migrants dans les Alpes. Le tribunal correctionnel de Gap a considéré que, compte tenu de la nature extrêmement grave des faits, de l'importance du trouble à l'ordre public, de l'importance des valeurs protégées par les infractions reprochées et du passé pénal des prévenus, la prison ferme s'imposait. Les prévenus dénoncent un jugement politique et feront appel. Nous vous parlions ce matin de 3 tableaux d'André Derain, dont les héritiers de René Guimpel réclamaient la restitution. René Guimpel, collectionneur juif, déporté et mort en camp de concentration, aurait été forcé de vendre ses toiles pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces tableaux appartiennent aujourd'hui au musée d'art moderne de Troyes et au musée Cantini de Marseille. La justice considère qu'il n'y a pas de preuves suffisantes de ces ventes forcées. Les héritiers comptent faire appel. L'école doit accueillir pleinement les enfants en situation de handicap. C'est une priorité, affirme le ministre de l'Éducation. Jean-Michel Blanquer s'est d'ailleurs rendu cet après-midi dans le Val d'Oise, en compagnie de la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, pour visiter le nouveau service départemental École Inclusive, une cellule d'écoute créée pour informer les familles sur les dispositifs existants et pour répondre à leurs questions. Il y a une volonté de simplifier la vie des familles et de faire entrer dans l'école les orthophonistes, psychomotriciens ou ergothérapeutes qui n'étaient pas les bienvenus auparavant. Les établissements scolaires s'apprêtent à accueillir 23 500 enfants en situation de handicap de plus cette année. Mais pour le syndicat des enseignants UNSA, la rentrée ne sera pas aussi évidente que le ministre le souhaiterait. Écoutez Stéphane Crochet, secrétaire général du syndicat, au micro d'Hakim Kasmi.
Pour cette rentrée, des modifications sont en effet en cours, mais enfin les choses ne vont pas si vite et les conditions de travail et tout particulièrement de rémunération des accompagnants est un sujet sensible. Donc il va avoir du mal à recruter des accompagnants et donc on aura en cette rentrée des difficultés comme on en connaît chaque année. On a vu là dans des écoles, dans des établissements, des accompagnants prendre contact fin juin, début juillet, ils étaient recrutés pour début septembre et puis dans l'été, ils ont trouvé un autre emploi. Un emploi à temps plein, rémunéré à temps plein, eh bien, les raisons économiques font qu'ils ont appelé dans l'été pour dire que non, ils ne seraient pas là à la rentrée, donc les procédures de nouveau recrutement sont en cours.
Sans parler du manque de formation, très souvent les enseignants qui ne sont pas toujours prêts à recevoir des enfants en situation de handicap.
Quand on dit enfants en situation de handicap, on utilise une seule expression pour une diversité de cas et que la formation dans l'absolu, elle ne peut pas exister, on ne peut pas être formé à accueillir tous les handicaps. Et donc c'est bien pour ça qu'il faut au plus vite un accompagnant, c'est pour ça qu'il faut ensuite assez rapidement avoir cette formation pour mieux comprendre comment répondre aux besoins de cet élève qu'on accueille dans l'école.
Stéphane Crochet de l'UNSA. Coup de rabot sur le mécénat d'entreprise. Pour celles qui donnent plus de 2 millions d'euros par an, leur taux de défiscalisation va passer de 60 à 40%. Le but est bien sûr d'économiser de l'argent, 80 millions d'euros par an à partir de 2021. 78 grandes entreprises seraient concernées selon le gouvernement. Cette décision inquiète Laurence Lepetit, déléguée générale de France Générosité.
C'est un nouveau coup de rabot au financement de l'intérêt général. C'est-à-dire qu'on vient de vivre 2 années très compliquées pour le financement de l'intérêt général en France, avec des mesures fiscales prises par le gouvernement, notamment l'année dernière avec la hausse de la CSG, la transformation de l'ISF en IFI, qui ont impacté durablement notre secteur. Nous avons eu notamment l'année dernière une baisse des dons des particuliers de l'ordre de 4,2%. On redoute une nouvelle baisse des dons, puisque notre expérience est que toute déstabilisation fiscale entraîne mécaniquement une baisse des contributions. C'est un mécanisme qui est extrêmement fragile. Cette mesure jette la suspicion sur un dispositif qui a fait ses preuves. Ensuite, on ne va pas pouvoir le mesurer tout de suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'année dernière, avec la baisse des dons des particuliers, les organisations caritatives ont reporté une partie sur le mécénat d'entreprise. Et demain, il va falloir qu'elles inventent encore autre chose pour maintenir le financement des missions auprès des publics les plus fragiles. On ne comprend pas, finalement, que pour une économie d'échelle de 80 millions d'euros, on prenne le risque de déstabiliser l'ensemble d'un écosystème.
Laurence Lepetit de France Générosité, jointe par Margot Delpierre. Les auditions sur le projet de loi de bioéthique se poursuivent à l'Assemblée nationale. La commission spéciale se penche toujours sur le sujet sensible de la PMA, la procréation médicalement assistée. Son ouverture à toutes les femmes est attendue avec impatience par les associations de défense des droits LGBT, mais elle préoccupe les représentants de cultes auditionnés aujourd'hui. Rosalie Lafarge a tendu son micro à Haïm Korsia, grand rabbin de France.
Ce qu'on peut faire ou défaire comme on veut avec une loi n'empêchera pas que l'humanité s'est construite sur l'idée d'un père et d'une mère et que cette nécessité, si la vie fait que l'un ou l'autre est absent, c'est tragique. On essaye, on peut compenser comme on veut, mais ça change l'aspiration, la vocation de la société que de construire un possible pour des enfants sans l'un ou sans l'autre, volontairement. C'est une grande différence. Nos fragilités, nos impossibilités, c'est ça l'humanité. Et on a le sentiment que on rentre dans un monde dans lequel on veut interdire ces impossibilités, ces fragilités, ces manques et ces imperfections. Ce qui se concevait en médecine de manière tellement évidente pour réparer des impossibilités, des maladies, ne peut pas se concevoir de la même façon pour répondre à une demande, aussi compréhensible soit-elle. Je ne méconnais pas ce que la Bible même raconte lorsqu'elle nous montre des patriarches et des matriarches qui hurlent de douleur parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Donc je comprends ce désir d'enfant. Mais de là à en faire une sorte de droit, il y a une grande différence. Dire je veux et le choix et ce que ce choix m'interdit, ça devient une forme d'adolescence, sans ce qu'on veut, tout et tout immédiatement. Je crois qu'il faut accepter une idée simple, tout le possible, technique, n'est pas faisable. Et c'est cette limitation qui s'appelle l'éthique.
La commission auditionne aujourd'hui également les représentants de la Conférence des évêques de France et de la Fédération protestante de France. Demain vendredi, temps orageux en montagne, notamment en Corse et sur les Alpes du Sud. Il fera beau et chaud ailleurs. Au lever du jour, seulement 8 à 12 degrés au nord de la Loire, 13 à 24 au sud. De la chaleur partout ou presque l'après-midi, 21 à 24 degrés sur la pointe bretonne, 26 à 31 en général, 30 à 37 près de la Méditerranée. Ce journal a été préparé avec Julien Loquet.